Shalom, on a aujourd'hui la joie de recevoir sur le plateau de Lehava à la Yeshiva le Rav Assouline qui parle français mais pas très bien, il comprend bien le français. C'est un spécialiste du chatnez, sur lequel il y a déjà un cours, sur lequel on a déjà fait un cours. Et vu que c'est un spécialiste de la question, je lui ai demandé de venir ici et nous mettre un peu au courant des dangers du chatnez, où il y en a, où il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il faut vérifier, quels sont les pièges. Un spécialiste qui pourra nous dire vraiment tout droit de l'actualité, si j'ai bien compris, il y a déjà aujourd'hui des urgences, même francophones, il va nous brancher sur le sujet. Alors, Rav Assouline, bechavod.
Shalom aleichem.
אני אתרגם.
בקיצור אני מרס, בגלל שאין לנו עכשיו הרבה זמן, נדבר כמה דברים קטנים. התורה הציפתה את היהודי לא ללבוש שעטנז, שתי פסוקים. אחד, לא תלבש שעטנז, זה מה פשוטים יחדיו, והשני, לא, ובגלל כדם שעטנז לא יעלה עליך.
Il y a deux versions dans la Torah, un qui nous dit de pas s'habiller avec du chatnez, c'est-à-dire de la laine et du lin ensemble, et l'autre que kilaim, c'est la même chose, un mélange de lin et de laine, ne peut pas monter sur nous. C'est-à-dire. Un habit
qui est chatnez,
on ne peut pas s'habiller avec. Voici c'est un exemple d'habit de chatnez. Interdiction de s'habiller avec. C'est-à-dire qu'il est mélangé de lin et de laine. Maintenant, ne pas monter sur toi, le deuxième verset qui ne pas monter, c'est une casquette par exemple. Ou une couverture. Maintenant, on a une carte qui nous montre un peu au niveau de la répartition du chatnez géographique. Alors on a ici une carte qui va nous montrer la répartition des vérificateurs de chatnez dans le monde, leur répartition. Voilà, tout ce qui est en rouge ici en fait montre que ça veut dire zéro, il n'y a rien du tout. Très 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 peu, non aucun. Voilà, donc on voit la majorité du monde, bien qu'il y ait des concentrations juives, ne possède pas de vérificateurs de chatnez. Le jaune c'est moyen et le vert c'est... C'est développé. On voit même qu'Israël est considéré comme une région où il y a ce n'est que moyen. Il n'y a pas suffisamment de vérificateurs de chatnez. Les pays développés sont, on voit ici l'Amérique du Nord donc, Suède, Angleterre, Australie et Grèce. Et la France, elle est entre développée et entre moyenne. C'est déjà mieux qu'Israël. Pas mal. Une fois un bon point pour les Français.
בכל מקרה, עכשיו היום נדבר על המושג שהוא נקרא זהירות הבגד.
Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui s'appelle attention à l'habit.
עכשיו, אנשים שואלים אותנו, איפה...
Les gens nous posent la question, où est-ce qu'il peut y avoir du chatnez? Un pull, voilà, un pull, tout à fait, voilà, de femme, tout à fait innocent à première vue.
Sur
l'étiquette de laquelle c'est marqué 100% laine. C'est bien marqué 100% laine. Ah, où est ce chatnez? Dans les décorations, les fleurs, les choses extérieures de ce type. Ce fil-là que nous voyons, beige, c'est du lin à l'état brut. Il faut expliquer à nos auditeurs que même on a un petit fil minuscule dans un grand habit, tout l'habit devient interdit. Même dans la partie, il y a une couverture par exemple, je me couvre avec une couverture qui est entièrement de laine, même sur le petit bout qui ne me chauffe pas, si là-bas est attaché un petit morceau de lin, c'est cuit. Je suis en train de faire l'interdiction. Un interdit de la Torah grave comme manger du porc au moins. Il faut que ce soit attaché. Au moins cousu deux coutures ou collé avec de la colle ou agrafé avec une agrafe Ou tisser ensemble, ce qui est le pire, bien sûr. Chazour, filer ensemble aussi. Toutes ces sortes de compositions, c'est l'interdiction de la Torah de porter l'un et l'aine. Ce qu'on appelle ensemble. Des fois, il y a des cas exceptionnels où c'est interdit que, entre guillemets, que des rabananes. Par exemple, un tapis. Il est fait avec de la laine de mouton. L'interdiction ne concerne que la laine de mouton. Mouton et le lin. Alors, il va expliquer, justement. Alors, de la Torah, vu qu'on ne s'habille pas avec un tapis, les gens normaux ne s'habillent pas avec des tapis, il n'y aura pas d'interdiction de la Torah. Ce n'est pas aussi grave que de manger du porc. Mais néanmoins, ça sera grave comme, par exemple, manger ensemble, voilà, que c'est comme manger un steak avec du fromage ensemble, ou cuire du poulet, du lait. C'est interdit des rabananes. Qui mange un poulet, voilà, c'est, voilà, comme pas écouter le mégalé. C'est une chose qui est très grave aussi. Voilà. Voilà. On voit ici de la laine qui a été tissée avec des fils de lin. Ah, pourquoi c'est interdit en fait? Vu qu'en fait ça ne nous chauffe pas. Donc on voit que on a un fil de lin ici qui est dans la trame de ce tapis. La question, pourquoi est-ce que c'est interdit? Vu qu'on ne s'habille pas, comme le jeune homme a très bien demandé. Si par exemple quelqu'un va se coucher sur le tapis, il peut qu'il y ait un petit poil qui va... Il s'enfonce dans le tapis et il y a une partie du tissu qui le recouvre un tout petit peu sur le côté. Là, il y aura un problème de la Torah. Donc, il est interdit de se poser sur un chatnez qui sera mou, parce qu'on s'enfonce dedans, et donc quelque part, on est un peu recouvert, on est recouvert sur les côtés.
Pour un cas où c'est comme ça, où c'est dur, on ne peut pas s'enfoncer.
Si on ne peut pas s'enfoncer, c'est très dur. On a par exemple un banc, un matelas épais, il n'y a pas de problème. Si c'est vraiment, si c'est un matelas épais, on s'enfonce. Dur, orthopédique comme ça, solide, si c'est fait de chatnez, mais il n'y a aucun risque qu'on va s'enfoncer, donc ça remonte un peu sur nous. Mais alors, marcher sur un tapis maintenant de chatnez, il n'y a pas de problème. En chaussures, ça irait. Pieds nus, ça irait pas.
Donc l'interdiction, elle intervient au moment où on se met dessus quand c'est bon.
Voilà, c'est pas la propriété, c'est quand ça nous chauffe. Parce qu'on leur a maintenant amené ces exemples, il les a, ça lui appartient. Mais il a fait attention de ne pas les porter et d'être chauffé avec la casquette. Hein? Maintenant, il y a un peu de soleil ou un peu froid, il porte une casquette. Voilà, là, c'est interdit. Voilà, pieds nus. Avec une chaussure, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc en fait, on voit que l'étiquette, lorsqu'elle dit 100% laine, elle ne parle que du support, l'habit en lui-même, mais pas toutes les petites fioritures et décorations qu'il y a autour. Dans un costume normal, on vérifie 52 parties qui sont suspectes de posséder du chatnez. Je vois ici que même, par exemple, les boutons, le fil du bouton, quoi encore, par exemple, les doublures, les renforcements. Même si c'est marqué 100% laine, et c'est vrai que c'est du 100% laine, néanmoins, il y a néanmoins 52 endroits, bien que c'est un 100% laine assuré, 52 endroits qui peuvent posséder aussi du lin. Ah, comment ça se fait que si maintenant c'est marqué 100% laine, quoi, ce sont des menteurs les fabricants? Ou bien c'est une clause internationale de... Comment ça se fait si c'est marqué 100% laine? Je dois le croire normalement. Ah, la loi ne parle que du tissu extérieur. Et jusqu'à 7-8%, ils peuvent aussi dire, ça va, c'est considéré comme 100%. C'est Batel Berov, annulé dans la majorité. Donc, si dans la décoration, même dans le tissu lui-même, alors, donc le tissu extérieur, il y a peut-être dans la décoration un petit fil de lin qui passe, ils vont rien dire du tout. C'est terrible. Parlons maintenant un peu du pantalon. Que 15 problèmes. Que dans le pantalon, il n'y a que 15 endroits qui doivent être vérifiés où il y a un danger d'avoir du chatness. C'est moins, mais c'est très lourd aussi. Le vérificateur donc doit vérifier. Tant qu'il n'a pas vérifié, ces 52 points n'ont pas été vérifiés, donc on est pas, le vérificateur ne peut pas assurer que l'habit est propre de chatness. Même si ça fait 51 parties, il manque une, peut-être que tout l'habit est interdit à cause de cette partie qui n'a pas été vérifiée. Un bouton, un de ceux-là, et un fil, un demi-fil de lin, tout l'habit est cuit. Par exemple, on peut croire que c'est le même fil. Non, peut-être il y a eu une réparation. Le fil, il a mis comme ça un fil de lin noir, tout à fait innocent. Tous les boutons ont été vérifiés comme il faut, à part un bouton. Là-bas, il y a peut-être du lin, et voilà. Comme si tu vas acheter un plat au restaurant, tu dis, il y a une chance sur 52, monsieur, qu'il faut que le plat contient du porc. Tu le manges ? Tu ne le manges pas ? Ici, voilà un exemple d'un costume qui s'appelle croisé. Ça s'appelle ? C'est comment ? Singel. Ah, c'est-à-dire les coins sont ronds. Ça, c'est un costume croisé. Il y a ici, très souvent, il y a un bouton intérieur. Et très souvent, le fil est fait de lin. Et de nouveau, si on est obligé de vérifier cela, alors tout l'habit est chatness. Voilà d'autres exemples qui nous montrent comment on ne peut pas compter sur les étiquettes. Ici, une. Ok, c'est un costume, on ne va pas montrer le nom sur la vidéo. Voilà. C'est très connu. C'est marqué 100% pure laine. Quand quelqu'un lui a amené cet habit, il a vu que les fils blancs contiennent une majorité de lin. C'est-à-dire que toutes les parties verticales sont en laine, mais les horizontales sont en lin. Alors même le tissu lui-même, châtain, sans aller voir les fils des boutons, etc., les 52 points, le tissu lui-même, le corps du tissu, il est complètement châtain. C'est un habit qui est complètement châtain. Terrible. Ça, ça a l'air d'être vraiment de la laine, tout simplement. Contient du laine, soie, et aussi dedans du lin. Et vraiment, ça a tout à fait innocent. Moi, j'aurais dit que c'est de la laine pure. Là aussi, un cas donc de lin et laine mélangés dans le tissu lui-même. Beaucoup d'exemples. Bon, histoire que personne ne croit qu'au clin d'œil, il peut voir, ça c'est de la laine, il n'y a pas de problème. Ça a l'air de la laine, mais ça n'en est pas. Là, c'est marqué que laine. Et dans le motif, il y a des petits fils blancs, les fibres blanches, c'est du pishtan, c'est-à-dire du lin. D'accord. Donc dans le blanc et dans le bleu, on voit ici dans la décoration du lin. Dans le corps même, c'est encore un exemple, la jaquette d'une jeune femme. De nouveau, avec du lin et laine, lin, coton. Des fils complets de lin. Alors, c'est une question. Si l'habit est fait de polyester, c'est-à-dire de tissu synthétique, est-ce qu'il faut le vérifier, oui ou non? Question courante. La réponse. Un costume polyester, 100%. Il se peut qu'il y ait dedans de la laine, dans le feutre qu'il y a dans le col, ou dans les doublures. S'il y a là-bas du lin, alors il y aura de nouveau un problème de chatnez. Mais donc il y a une loi ici. On va dire, au niveau de la loi stricte, au niveau de la loi stricte, si on a un pourcentage de chance qui est inférieur à 7 ou 8%, on appelle cela une minorité non fréquente. Une minorité non fréquente te permet au niveau de la loi stricte de ne pas les vérifier. Mais il se peut qu'on porte un habit de chatnez. C'est-à-dire que tu as le droit de ne pas les vérifier, parce qu'on compte sur une majorité que les habits en polyester, d'habitude, il n'y a pas dedans de doublure de lin, et il n'y a pas dedans de du lin. Mais vu qu'il y a quand même un certain pourcentage, donc on va dire que ce n'est pas obligatoire, mais extrêmement conseillé. Celui qui veut ne pas tomber dans le panneau, c'est dommage de manger du porc comme ça sans faire attention, il vérifie lui-même, tu croyais que c'était parvé, c'est-à-dire ni lin ni laine, il y avait du chatnez dedans. Et même mes lunettes, je crois que je vais les faire vérifier, j'ai peur de tout porter ma kippa. Et la kippa, peut-être il y a dedans de la laine, qu'est-ce que j'en sais, enfin, non.
Avec
un pantalon, par exemple, qui est entièrement synthétique, là, il n'y a pas besoin. On parle que de costume, le costume. Mais le pantalon, ça va. Rien que le costume, la jaquette. Un habit qui n'est pas, on va dire comme ça, un habit qui est polyester, donc entièrement synthétique, qui n'est pas un costume, alors pas besoin de vérifier. Les chaussures, c'est pas courant. Il y a des cas. Des pantoufles, de laine pure, ça vaut la peine de vérifier. Les cravates, d'Italie, d'Espagne, dedans, il peut arriver des doublures, voilà, la doublure, laine et lin mélangés. Les bottes fourrées, par exemple, dedans, il y a de la laine, ça se peut alors, par exemple. Celui qui veut faire une mesure de piété. Les chemises. Les chemises en coton, il n'y a pas de problème. Mais les chemises de femmes, il a découvert en France, dans les ventes orthodoxes en Israël, d'habits venus de France, pour femmes, il y avait des chemises qui étaient entièrement de lin. Et dedans, il y avait un peu de lin, et bien que ce n'était pas marqué sur l'étiquette. Tout ce qui contient du lin ou de la laine, il faut vérifier. Et si c'est marqué plusieurs sortes de fibres, par exemple, il y a une sorte de OF, des fois, other fibers, autre fibre. Donc mélange d'autres fibres, donc il faut aussi vérifier. Oui, c'est un exemple de casquette. Où est-ce qu'on peut trouver du chatnez dans une casquette qui est faite de laine? Le lin se trouve ici, dans la visière, la doublure de la visière. Si le lin et la laine sont à deux endroits distincts dans le même habit. J'ai un habit polyester, il y a un carré de lin, un carré de laine, mais ils ne se touchent pas. J'ai un habit et de polyester, on va dire, synthétique. Il y a un endroit où il y a du lin, un endroit où il y a de la laine. Mais l'un ne touche pas l'autre. C'est une discussion entre les rabbanim aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui. Le Shulchan Aruch lui dit que, comme Maïmonide, que c'est interdit de la Torah. Yardav, ensemble, quoi qu'ils sont marqués, Yardav, ensemble, donc ensemble dans tous les cas, c'est ensemble. Pour, d'après le Réma, nos frères Ashkenaz, ça serait permis. Mais beaucoup de décisionnaires Ashkenazim se disent, Golgan de Vilna, etc., d'ici le Rambam interdit le Hayadam, donc même Ashkenazim, en fait, il devrait être, prendre l'avis sévère comme Maïmonide, parce que c'est quand même l'avis du Shulchan Aruch. Deux habits séparés, un laine et une chemise de lin, avec, qui a été vérifiée, comme il se doit, avec dessus un costume de laine. Voilà, c'est la chemise de laine, voilà, et le costume est de lin. Le contraire, la chemise de lin et le costume de laine. Est-ce que c'est permis? Le Shulchan Aruch n'a pas interdit. D'après le Réma, donc. Le Réma interdit des Rabbanan si on ne peut pas enlever l'habit inférieur sans enlever l'habit extérieur, supérieur. Donc, je ne peux pas enlever ma chemise sans enlever le costume, donc ce serait interdit des Rabbanan, d'après le Réma.
Mais.
Il se peut que les gens sont très souples et arrivent des fois à enlever comme ça leur chemise sans enlever le costume. Vu que c'est possible, il semblerait, donc ça serait dans ce cas-là, ça serait. Il y a des décisionnaires, beaucoup de décisionnaires qui autorisent cela. Seulement s'il s'est attaché avec une ceinture de façon puissante sur la jaquette extérieure, dans ce cas-là, ça serait interdit des rabbanan. Tout le monde est d'accord que s'il y a une chaussette de lin, pardon, de laine, une chaussette de laine, et la chaussure est de lin, et là, bien sûr, on ne peut pas enlever la chaussette sans enlever la chaussure. Donc là, tout le monde est d'accord, donc ce serait interdit des rabbanan. Après le Réma, oui. Si on porte un habit de façon inhabituelle, par exemple, on va porter une casquette, on va la poser là comme ça, on la pose sur le genou. Excusez-moi, je monte mon genou. Hop, on pose sur le genou la casquette et elle nous chauffe un peu. Cette halakha est amenée dans Si il y a un profit, on est chauffé. Il fait froid et on met sur son corps la casquette. Vu qu'il profite, donc c'est interdit. Excusez-moi, à propos de cela, si c'est dans le contraire, c'est le froid. Moi, je profite maintenant, il y a du vent. On va dire non, il fait très chaud. Et je mets maintenant je suis brûlé un peu sur la poitrine comme ça, je mets la casquette pour me protéger. Est-ce que c'est considéré comme un port de châtaignes aussi? Non, dessus, sur moi. Voilà, posé sur le corps. S'il y a profit, ça s'appelle, ça ne montera pas sur toi. Or, c'est monté vu qu'on le porte, donc ça serait interdit. Un sederbanin comme un coussin. Un coussin qui est fait de lin. Les fleurs sont ici de laine. Il dort maintenant, il met sa tête dessus. Il trouve ça c'est interdit de rabbanan parce que sa tête s'enfonce dans le coussin. Maintenant, vu que ce soit un chapeau. Là, c'est interdit de la Torah. Parce que ce n'est plus une chose qui est sous lui, mais qui est sur lui. Les rabbanan, on a dit que si on se pose dessus, donc c'est que les côtés qui sont chauffés, c'est des rabbanan. Maintenant que le maître, il devient casquette maintenant, ça va chauffer, voilà. Ouais, il pleut par exemple. À ce moment, ça devient interdit de la Torah. Ce tapis maintenant, il le prend en tant que couverture, donc ça devient un interdit de la Torah. Parce qu'on le porte sur nous.
Ouais.
Vous m'avez dit dernièrement au téléphone que vous avez découvert maintenant, il y a 2 semaines, un châtenais extrêmement difficile à trouver, très compliqué. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi compliqué? Qu'est-ce que ça veut dire tellement dur à trouver? Au niveau, le lin se reconnaît facilement. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas reçu une formation de grand vérificateur, il peut lui-même aller au microscope ou je sais pas, à vue de nez, reconnaître le lin et la laine? Il y a plusieurs moyens d'identification, des méthodes d'identification. La méthode ancienne, le microscope. C'est l'ancienne. On vérifie au microscope donc la fibre de laine et la de lin. On voit chaque fil, de quoi il est formé. On peut voir quelle laine, la laine de chameau, laine de cachemire, mohair, etc. Toutes sortes de laines. Et donc, quelle laine vraiment est interdite par la Torah que celle de mouton? Que la laine de mouton est interdite, exclusivement. Tout le reste, tous autres animaux, tels que, alors on aura le chameau, le lapin, l'alpago, à part l'agneau et le mouton. Même au niveau des végétaux, ce n'est que le pishtan, donc le lin. Voici du vrai lin, une fois qu'on en voit, voilà de quoi ça ressemble. Voici des fleurs de lin. Tout le reste, le coton, le jute, le canevou, c'est le chanvre indien. Le coton, voilà, tout cela est permis de la Torah. La méthode donc du microscope. Et la méthode, c'est regarder avec les yeux ou avec une loupe. Troisième méthode, ouvrir les fibres avec une pince. Dans chaque méthode, donc, il y a des moyens de reconnaissance du lin ou de la laine. Il y a des vérificateurs qui n'ont appris que la méthode du microscope. À cause de là, des fois, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à bien vérifier. Ah, ils voient deux fils qui, à vue d'œil, leur semblent être les mêmes fils. Et donc, ils en prennent un des deux pour vérifier. Et le un va. Mais le deux qui n'a pas été vérifié, en fait, il ne va pas. Là-bas, c'est le piège. C'est pour ça que celui qui apprend aussi à vérifier à la loupe, il verra déjà que, en fait, les deux fils qui semblent être identiques ne sont pas identiques. Il met au microscope, et là il vérifie, il met les deux. Il y a une question de David.
Sur chaque vêtement, il prend bien les 52 points, comme on a vu sur le costume, parce qu'on le laisse une heure,
Une question piège importante. David pose la question, est-ce que, des fois on laisse une heure l'habit chez le vérificateur, est-ce qu'il a le temps de bien vérifier au microscope les 52 points qui doivent être vérifiés? Il va nous dire la réponse bientôt. Méthode numéro 3, donc, ouvrir le fil lui-même, la fibre, oui. Alors on ouvre le fil et après on peut voir ensuite la fibre. Chaque fibre, chaque végétal ou chaque animal, il a des fibres de type différent. Celui qui sait que le microscope pourra interdire le permis et autoriser l'interdit. Donc non seulement il ne tombe pas sur les vrais pièges, mais en plus des fois une chose qui est permise, il va l'interdire. Pourquoi? Car dans la génération passée, donc il y a 20 ans, même pas plus, ouais, 50 ans, on n'avait pris qu'à la reconnaissance du lin et de la laine, c'est tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres sortes de laines qui sont permises, des laines de lapin, des laines de chameau, des laines de tout ce qu'on a vu ici. qui sont permis. Or, il y a 50 ans, ce n'est pas la différence entre laine de chameau et laine de mouton. Donc, on interdisait une chose qui était permise. De même au niveau végétal, il y a beaucoup de végétaux qui sont permis. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. C'est pour cela qu'il faut... C'est très dur d'apprendre cette... C'est très, très dur d'apprendre ce sujet et d'être un spécialiste en la question. C'est la raison pour laquelle la génération qui nous a précédés avait des problèmes de ce type. Il y a des grands spécialistes en microscope, mais peu. Eux vérifient vraiment de façon très très méticuleuse chaque point de l'habit. On pourra compter sur la vérification, mais c'est ça coûtera très très cher. Et c'est une minorité. Ça prend beaucoup de temps, 2-3 semaines pour recevoir l'habit en retour. Et les gens se désespèrent, ils disent 3 semaines, lui il fait 1 heure. Donc il y a un danger d'aller chez des vérificateurs qui ne sont pas des vérificateurs suffisamment. C'est pas leur faute, mais c'est en fait il s'avère que donc il y a un piège possible. Donc il faut savoir qui sont les bons vérificateurs. Je vous demanderai après, vous me donnerez une liste qu'on va publier sur internet de vérificateurs en tout cas francophones que vous connaissez, sur qui on peut compter. Alors on avait 3 méthodes. Quelles sont les 4e et 5e méthodes? Ah, que 3. Vous avez dit 5 auparavant.
Il y a encore des autres méthodes, mais elles ne sont pas...
Ah, elles sont plus actuelles. Ok. On l'utilise en tant qu'aide supplémentaire, mais pas en tant que décision pour comment psycha, pour trancher de façon totale. Parce qu'il y a des signes qui sont très clairs, alors en fonction desquels on peut trancher si c'est permis ou interdit. Il y a beaucoup de choses qui sont que des qui donnent une direction, quelle famille. Mais c'est pas suffisamment pour trancher de façon définitive. C'est vraiment faire la différence entre pur et impur. Il n'y a pas moitié-moitié, il faut être certain. Alors, celui qui a appris aussi la méthode à la loupe et aussi la méthode de défaire les fibres n'a pas besoin de mettre tous les fils dans le microscope. C'est pas utile, pas nécessaire. Ou bien il regarde à la loupe, mais il a appris de façon vraiment bien comme il faut. Il y a beaucoup de gens qui n'ont que d'expérience. C'est pas suffisant. C'est pas scientifique. C'est pour cela qu'il y a des problèmes au microscope. C'est empirique, mais pas suffisamment exact. Or, en Torah, nous voulons savoir de façon tout à fait totale. Celui qui vérifie donc avec la loupe et avec la décomposition des fibres, lorsqu'il voit il vérifie les 52 points, une partie va faire avec la loupe, une partie avec la pince. Et des fois, quand il a un doute, il prendra le microscope. Ça prend environ entre 20 minutes et une demi-heure pour vérifier un costume, les 52 points du costume, avec les pantalons, les 13 points du pantalon. Celui qui vérifie qu'au microscope, c'est au moins 2-3 heures. Il y a des costumes, c'est très dur. Il y a des costumes qui sont faits à la main. C'est ailleurs. Puis là-bas, il y a 200 points qu'il faut vérifier. Pourquoi? D'accord, deux parties séparées qu'il faut... Ça fait déjà 100. En plus, ce que le tailleur lui-même, il va, il rajoute, ça peut arriver jusqu'à 200 points. Celui qui veut faire qu'au microscope, il va désespérer, il va s'enfuir de ce métier, il va changer de métier. C'est pour cela, beaucoup de vérificateurs, la majorité ont arrêté ce métier. Ça manque de vérificateurs dans le monde. À ceux qui veulent faire de l'argent, venez, faites une formation. Le Rav fait des formations, c'est pas pour ça qu'on a fait le cours, hein, un pourcentage après. Mais c'est une bonne idée après de s'amuser dans la Torah, très bien, et on sauve le peuple d'Israël de manger, de s'habiller d'un des interdits les plus graves de la Torah. Et qui est, comme le Rav a dit, une mitzvah qui est pauvre. Si on parle déjà donc d'une mitzvah qui est délaissée, le Sefer Hasidim, dans le Siman chapitre 107 et le Gaon de Vilna aussi, dit que toute mitzvah qui n'a pas de personne qui la recherche, recherche-la pour la faire. Pourquoi? Parce que cette mitzvah, elle va dans le ciel, elle accuse, elle dit en quoi je suis plus grave, je suis pire que les autres, que je suis délaissé. C'est pour cela que donc Sefer Hasidim et le Gaon de Vilna disent que celui qui va faire des mitzvot, qui sont des mitzvot qui sont délaissés, ça en mérite est très grand. C'est la raison pour laquelle le Rav essaye d'enseigner des élèves dans le monde entier et de promulguer donc cet interdit du chatnez et de faire aussi des petites imprimer des petits feuillets qui d'abord pour sauver les juifs pour pas qu'ils transgressent tous les jours cet interdit de chatnez. Deuxièmement, pour avoir pitié du pauvre ange dans le ciel duquel dépend cette mitzvah. Chaque mitzvah a un ange. Chaque chose qu'il y a dans le monde a un ange. Il y a une entité spirituelle qui est responsable. Alors le pauvre ange responsable, l'entité spirituelle correspond au chatnez, il est boiteux, à moitié aveugle, complètement défoncé, parce que beaucoup de juifs, hélas, dénigrent cette mitzvah. Troisièmement, la présence divine. Quand on fait ce péché, ça amène beaucoup de chilul Hashem, de profanation du nom de Dieu. Pourquoi? C'est une mitzvah qui n'a pas de profit. C'est pas que quelqu'un il voit une fille ou voit un bon steak qui n'est pas cachère, alors il est attiré. Il n'y a rien d'être, c'est pas attirant de porter du lin, la laine. Qui l'a vérifié? Que ce soit avec ou sans, ce sera le même habit. Va vérifier, ça ne te coûte rien. On enlève le lin et l'habit reste bien. Pourquoi ne vérifie pas? C'est ici une non-considération de l'ordre de Dieu. Une non-considération. Pardon? 20 costumes, tu vas. Tu donnes 20 costumes. Combien ça coûte de vérifier un costume, ici en Israël? 35, entre 35 et 45 shekels avec le pantalon et avec la recouture. Maintenant, combien tu seras prêt à payer maintenant pour ne pas manger du porc? Tu dis, voilà, tu as une chance. Tu as 20 costumes. T'as bien une chance sur 20 costumes d'avoir du chatnez dedans. Tu as une chance, on va dire, une chance sur 100. Je suis gentil, hein. Maintenant, prends ce plat. Tu as une chance sur 100 maintenant de manger du porc. Si c'est en termes polyester, on avait dit que c'est pas obligatoire, c'est juste bien. Mais si maintenant tu as un costume qui est ou de lin ou de laine, il y a de fortes chances qu'il y ait dedans du chatnez. Donc, il faut payer 25 ou 35 shekels et ne pas manger de porc. Tu vois, le Yetzer, c'est intéressant. Le Yetzer, si tu as une chance sur 1000 qu'il y a du porc, on te dit maintenant, il y a une chance sur 1000 qu'il y a du porc dans le plat de la Yeshiva aujourd'hui. Tu manges? Une chance sur 1000. Tu manges ta faim. Tu vas manger une pizza. Tu vas lâcher une pizza à tes frais, d'accord? Et on te dit que pendant une semaine, il y a une chance qu'il y a du porc. Tu iras tous les jours acheter une pizza. Ça te coûtera plus cher qu'aller vérifier tes costumes. Parce que tu as une chance sur 1000. Là, on te donne une chance sur 100 que dans tes costumes, tu portes un interdit qui est plus grave. Le porc, t'as mangé une fois à la biche. Toutes les 10 secondes, tu te transverses encore. On en parlera. Donc, après la Kabbalah, il y a aussi d'autres, des raisons très profondes pour lesquelles le chatnez est interdit. D'abord, il y a les deux interdits de la Torah. Ensuite, le fait de porter le chatnez, ça amène sur la personne beaucoup de sortes d'impuretés. Bientôt, le Rav va imprimer quelques petits feuillets dans lesquels il va expliquer cela de façon beaucoup plus clair. Et nous, on va expliquer cela aussi très très bientôt. Je voulais encore préciser qu'il y a beaucoup d'histoires à propos du Chatnez. Au nom du Rav Simcha Kessler, qui est aujourd'hui le grand rabbin de la petite ville de Kiryat Sefer, à 20 minutes de Jérusalem. Il raconte que lorsqu'il était jeune, il a reçu un cadeau de sa mère de l'étranger, un manteau. Bien sûr, il a vérifié du Chatnez. Ils ont dit que la vie était cachère. Il était content et il a porté. À l'époque, il a acheté un livre qui s'appelait Ksota Choshen, très connu. C'est un nouveau livre qui sortait de l'imprimerie. Il a vu, dès qu'il a ouvert, il a vu qu'il y a un trou, comme un trou, c'est-à-dire un trou dans la page, il y a un trou exactement dans la halakha qui parle du Chatnez. C'est dit, c'est pas normal, un livre qui vient de sortir de l'imprimerie qui est tout neuf, il n'y a pas de trou dans les pages. Même s'il y avait un verre, il n'a pas le temps de manger si vite. Une page de Ksota Choshen. Et si peut-être c'est un signe pour le manteau qu'il a reçu en cadeau. C'était revérifié. Et ils ont découvert là-bas du Chatnez. Ils ont recherché. Alors, il a écrit une lettre à ses parents qu'il remercie Dieu à la lumière qu'il a reçue du ciel. C'est un signe. Pas tout le monde a la chance qu'on le fasse un signe comme ça, un clin d'œil si clair du ciel. Et il a compris d'être enveloppé par la Avera. C'était pendant la fête de Sukkot. Alors on dit quand quelqu'un fait la mitzvah de Sukkot, il est enveloppé par la mitzvah de Sukkot, parce qu'il est dans la Sukkot. Là, il a compris, lorsque quelqu'un porte du Chatnez, il est entouré, il est enveloppé de l'interdiction, l'impureté du Chatnez. Il a beaucoup remercié Dieu, bien sûr, c'est extraordinaire comme histoire. Alors j'entends maintenant, moi, par exemple, j'ai donné mes habits en Chatnez, ce costume-là, hein, j'ai un costume de laine. Au magasin, ils m'ont dit, il n'y a pas de Chatnez. Bon, des gens religieux qui vendent, ils m'ont dit, il n'y a pas de Chatnez. Alors je viens de regarder là, c'est marqué 100% wool, 100% laine. Alors, est-ce que je dois revérifier maintenant? Ils m'ont dit, au magasin, vous pouvez compter les yeux fermés. Alors, j'ouvre les yeux. En Israël, ça s'appelle un mitgam, un échantillonnage. On a fait un échantillonnage. Le commerçant a acheté 1000 costumes. Il a vérifié 5 ou 10 de ces costumes-là. En comptant sur ces 5-10, il dit à tous les acheteurs que ça va. Et beaucoup de juifs comptent là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Ah, il me raconte une histoire maintenant qui date d'il y a 2 semaines et demie, tout frais, qui sort du four. Il a eu la chance d'être le découvreur et le publicateur de ce problème. Il y a un magasin à Geoula, à Bnei Brak, Ofnat Gad, ou Charmens, le nom de 2 magasins. Ils ont commandé de la marchandise qui est arrivée le 12 du mois de Av, donc en plein mois d'août, des costumes. Et ils prétendent qu'ils ont envoyé un échantillonnage. En soi, il y a 2 problèmes. Premièrement, d'abord, cet échantillonnage qu'ils ont envoyé, d'après ce qu'ils disent, on ne connaît aucun vérificateur en Israël qui a vérifié ces costumes. Non, ils ont vérifié, ils n'ont pas trouvé, ou ils disent qu'ils n'ont même pas vérifié. Ils ont vérifié, ils n'ont rien trouvé. Donc ils ont vraiment envoyé, ils ont été honnêtes, le magasin. Le fait de compter sur un échantillonnage, ils ont emporté du Chatnez. depuis le 12, donc depuis le mois d'août, toutes ces fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, et nous on sait que la prière n'est pas reçue quand on porte un bit chatnez. Donc toutes les prières de Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, tout ça c'est voilà, fichu. Depuis 2-3 semaines, un Bachur Yeshiva lui a amené un habit. Et il sait qu'il est français, il s'appelle, bon, peu importe. C'est le neveu de Rabbi Yaakov Toledano du Rinci. Et a donné au Rav le costume. Il a découvert le chatness, qui était très très dur à voir. Pourquoi très dur? Ça veut dire quoi très dur? Il va nous expliquer. Immédiatement, ils sont allés au magasin, aux autres laboratoires. Et tout le monde acceptait effectivement que c'était du chatness de la Torah, interdit. Et on a fait une grande publication à la radio, dans les journaux, les affiches. Et Baruch Hashem, grâce à cela, des centaines de juifs qui portaient déjà le chatness, Avrechim, Bnei Torah, des Kolelman, à Jérusalem, à Bnei Brak, tout ça, ont été sauvés. Et tout ce qui était dans le magasin était vérifié et il y avait des centaines de chatnez. Pourquoi, comment se fait-il qu'ils ont trébuché sur ce grand problème? Parce qu'ils ont compté que sur un échantillonnage. L'échantillonnage de Prélacha n'est pas valable. Pourquoi? Premièrement, très souvent, dans la même chaîne de fabrication, il y a des différences dans les parties intérieures de l'habit. Certaines parties sont terminées, ils amènent d'autres tissus, tout ce qu'il y a là-dedans, les doublures, etc. Donc même si on avait fait un échantillonnage, n'est pas un témoin pour le reste, vu qu'il y a d'autres sortes de produits qui ont été mis dans les autres. Et là-bas, il y avait 100 à 200 costumes de chatnez. Et ça arrive de façon tout à fait fréquente. En plus, très souvent, le magasin, plusieurs sortes de fabrication de juillet, de août, septembre, il reçoit ensemble. Et évidemment, il a pris un échantillonnage de juillet qui n'est pas témoin sur août ou septembre. Chaque ligne de fibre de fabrication contient d'autres produits. Des fois, il y a des parties de l'habit qui tombent. C'est moins fréquent, mais ça arrive aussi. Et le commerçant lui-même va, il rajoute maintenant, il prend un fil. Alors chez nous, à la maison maintenant, ma femme raccommode un bouton. De quoi et comment je sais si le fil est de lin ou je l'amène mes fils aussi chez le vérificateur. Mais d'habitude, les fils sont faits de coton ou polyester. On peut compter là-dessus. Les fils que nous avons, que c'est marqué coton, c'est coton. Il y a eu des cas rares. D'habitude, c'est du coton ou du polyester. Alors, l'histoire de Rav Kessler qui a vérifié, malgré tout. Alors, tout le monde aurait reçu un signe du ciel pour voir la chose immédiatement. Alors, aujourd'hui, nous, donc il dit, il y aura une chose qui est très, très, très logique. Si quelqu'un, il fait attention à tous ses habits, il est très méticuleux. Alors, du ciel, quand une fois, il a fait ce qu'il devait faire et il est tombé sur un cas de chatnez, alors du ciel, il y a des chances qu'on lui fera un signe comme cela. Mais celui qui ne vérifie pas la moitié de ses habits parce qu'il compte sur... Moi, ça ne m'arrivera pas, d'accord. Alors, pourquoi est-ce que du ciel, on lui ferait un signe? J'ai vu cette semaine dans le livre qui s'appelle Chobat HaTalmidim. Il dit au nom de son grand-père, c'est un grand admor qui écrit ce livre-là, l'admor de Kuznitz, que chaque juif qui fait attention au niveau de manger cacher, il va chez le boucher qui est cacher. Il veut le tampon cacher comme il faut, tout ce qu'il faut. Du ciel, on fait attention qu'il ne fasse pas ne soit pas amené à manger un aliment non cachère. Parce qu'il fait attention, donc on l'aide du ciel. C'est-à-dire, même s'il y avait eu un cas où peut-être il y avait des aliments non cachères, le ciel, on va le protéger. Parce que lui, il fait très attention. De même au Chatez, il fait très attention. Alors, du ciel, on peut espérer qu'il va être aidé. Alors maintenant, je dois ramener deux fois, trois fois chez le vérificateur mes habits. Je peux compter, je vous amène chez vous, ça ira, c'est bon. Deux fois, vous me dites. Il faut premièrement que le vérificateur soit un vrai vérificateur. Chacun qui dit, alors comment savoir? Quelqu'un qui dit qu'il est médecin, il n'est qu'un infirmier, il ne peut pas dire qu'il peut faire une opération, c'est certainement pas. Donc il faut bien vérifier. Deuxièmement, il faut voir qu'il y a un ticket. D'après, avec une, donc il y a des habits qui sont sur le commerce, qui ont déjà une étiquette naki de qui, voilà, on voit ici sans chatnez, garantie sans chatnez, mais d'un laboratoire sur lequel on peut compter. Alors comment savoir quels sont les bons laboratoires, les bons vérificateurs? Il faut se demander. Ben, je vous demande de vous poser la question, c'est vous. Vous allez nous donner une liste qu'on va publier, qui ne sera pas une liste exhaustive, parce qu'on ne veut pas rater quelqu'un qui peut être un bon vérificateur, mais on pourra savoir qu'en tout cas ceux-là sont considérés comme des bons vérificateurs et une vérification suffira. En France ou en Israël, on veut. Il y a des bons juifs un peu partout. Encore une nouvelle toute chaude actuelle. Un Bachur Yeshiva il y a deux semaines, en France, à Lyon, lui a donné un costume de la marque Danibert, très connu. Et là aussi, il a découvert un chatnez très très dur. Ça veut dire, il y a trois ans, Danny Bear a fabriqué des costumes de façon, lui avec une intention tout à fait louable, mais sans faire exprès. Il a demandé de la fabrique de mettre aucun lin dans l'habit, mais la fabrique néanmoins a mis un col avec du lin. C'était il y a trois ans. La chose a été connue, mais pas suffisamment. Il y a deux, trois semaines, un Bachur Yeshiva est venu qui habite Lyon, et il lui a donné le costume, et il a découvert dans la caresse, c'est donc dans le coussinet qu'il y a dans l'épaule. C'est ce costume-là? Ou bien? Non, ok. Ah, le costume est resté à Macharim, oui. Dans le coussin, ici, il y a dedans un petit morceau de tissu qui est fait très bizarrement. Un fil kasher, le deuxième fil est du lin. Est recouvert d'un produit qui fait qu'on ne voit, qui cache le lin. Deux fils, chaque fil se ressemble. Il se ressemble parce que celui qui est de lin vraiment, il est recouvert d'une couche qui le cache, qui le camoufle. Il y a ici deux problèmes. Beaucoup de vérificateurs ne vérifient pas ce qu'il y a dans le coussinet. Et ceux qui vérifient, il n'a pas la loupe. À vue d'œil, ça a l'air d'être le même fil. Il peut tomber sur le fil cachère. Et il va y voir que c'est cachère. Et en fait, et voilà, il s'avère que la majorité des vérificateurs n'ont pas découvert ce chatnez. Baruch Hashem, lui, a découvert dans la majorité de la France, il a déjà publié cela. Il y a déjà beaucoup de juifs en France et en Israël qui portent des costumes donc d'Anny Bear, ont appelé ici en Israël, et voilà, qu'il y a un risque de chatnez dans ces costumes-là. C'est pas certain. Pas beaucoup de sortes de costumes. Dans la dernière collection de d'Anny Bear, celle de ces fêtes-là maintenant, avant ces fêtes. Danny Bear, vu que c'est une boîte juive, ils ont beaucoup de magasins dans toute la France, et les Juifs comptent sur lui parce qu'il est juif, et ils ont raison, lui, Bon, lui, il a fait ça de toute façon. Lui, il a fait ça de toute façon. Lui, il a été tout à fait OK. C'est la fabrique qui a mis sans lui dire. Lui était OK. Et beaucoup de gens comptent, vu que c'est un juif, et qui dit, il est religieux, ce Danny Bear. Et lui, voilà, Shantan Mitzvot, un bon juif qui veut faire les choses bien, donc lui, il veut aider la communauté en faisant des habits qui sont propres de Châtenay, c'est devant la fabrique. Les gens comptent sur lui, mais vont pas vérifier. Et voilà, ici, il y a eu un problème dur de Châtenay. Ça s'appelle un échantillonnage. Lui aussi, il a dû vérifier quelques-uns. Ou alors, où il a donné des costumes qui étaient vraiment sans châtenaise, ou que les fabricateurs n'ont pas... C'est un châtenaise qui est vraiment très très caché. Caché dans les deux sens. Caché en hébreu signifie dur, et caché en français qui signifie qu'il est caché. Pardon? Et c'est pour cela qu'il promet aux gens qu'il n'y a pas de châtenaise dedans. Mais voici que, donc, il y a vraiment eu un problème. Ok. Il y avait une question?
Est-ce que si j'amène un vêtement vérifier le châtenaise, le vérificateur il me dit c'est OK. Est-ce que après moi je suis considéré comme OK ou le vêtement il reste pas soul?
Il a mis le costume chez le vérificateur. Le vérificateur lui a dit c'est OK. Maintenant, alors lui, est-ce qu'il est OK ou il n'est pas OK? Maintenant, s'il y a un problème de châtenaise dans l'habit. Alors c'est comme si tu as mangé, je peux me répondre, c'est comme si tu as mangé du porc sans faire exprès. C'est comme si tu as mangé du porc sans faire exprès. Alors le Rav traduit comme ça ta question. Il dit, alors il se peut qu'au niveau de l'interdit, donc tu es shogeg, c'est ta façon involontaire. Bon, alors c'est nous involontaire. Est-ce qu'il y a quand même toutes les malédictions, tous les problèmes que amène le châtenais sur la personne? Est-ce qu'ils sont aussi actuels si on est non responsable d'avoir porté un châtenais? Parce qu'il est marqué dans le livre saint, celui qui avait donné un vérificateur qui est vraiment un vrai bon vérificateur de l'habit, et que le vérificateur n'a pas découvert ce châtenais, le client est appelé shogeg, involontaire. Néanmoins, il souffrira quand même des toafot leva et des conséquences des conséquences du port de châtenaise, telles que par exemple les prières ne passeront pas. Celui qui vérifie bien, on pense que la malaprovidence l'aidera à ne pas porter de châtenaise jamais. Dieu l'aidera à découvrir qu'il portait des chaises et il n'en portera plus. Alors, Souline, on vous remercie beaucoup.